êtes bien de bonne humeur, c'est normal, vous êtes à l'écoute du 93.6 Radio Bulle Rythme La Genêt. Les amis, le rendez-vous de l'auto, c'est le lundi matin et le jeudi matin toujours avec Christophe Perroux. Bonjour Christophe.
Bonjour Samia.
Tu vas bien?
Très bien et toi?
Ben ça va très bien aujourd'hui, tu vas nous parler de tout ce qui fait bip bip dans la voiture, les technologies embarquées.
C'est ça, la voiture est R2D2, donc on va parler de voitures qui font bip bip bop bop.
Ouais.
Donc la technologie embarquée, à quoi ça sert, pourquoi faire, est-ce que c'est indispensable, donc tout ça pour expliquer, parce que j'ai plein de clients qui me disent j'en ai assez, ma voiture elle fait que biper, pourquoi elle bipe? Oui, alors c'est vrai qu'elle bipe.
Dépassement de vitesse des fois,
c'est ça.
T'es pas dans la voie,
c'est fantastique.
Je coche toutes les cases.
Ah non, mais elle est devenue mais super experte.
Bah c'est surtout que je conduis pas très bien moi, faut que je fasse attention quand même. Hein.
Ah bon, bravo.
Non mais c'est vrai, non mais bon, non. T'as raison. Oui, bravo. Non, mais c'est vrai que des fois, bon, je me dis, c'est pas grave, je suis un peu au milieu de la route, mais il y a personne. Mais c'est pas bien. Heureusement qu'on a ces technologies embarquées, du coup.
Donc voilà, la technologie embarquée sur les nouveaux véhicules, on a plein de choses. En sachant qu'aujourd'hui, la France et l'Europe aident les constructeurs, demandent aux constructeurs d'avoir ce qu'on appelle des conduites semi-autonomes. Donc c'est-à-dire, c'est que là aujourd'hui, nos véhicules, ils pourront presque aller d'un point A à un point B sans qu'on touche la voiture.
Ça me fait un peu peur, ça, ouais. Mais c'est encore un autre débat, mais ouais.
Voilà, bon, on n'en est pas là, parce que ça n'a pas été demandé, mais par contre, il y a tout qui se met en place. Donc, la technologie embarquée, elle va servir avant tout à être garant de la sécurité. Donc, comme tu l'as très bien dit, le maintien dans la voie, les régulateurs de vitesse adaptatifs. Donc voilà, tout ce qui va être maintien à la vigilance. Donc ta voiture, elle arrive à savoir si t'es en train de somnoler ou
c'est
pas.
C'est vrai?
Ouais.
Ah, je savais pas ça.
Et elle va te rappeler, mets les deux mains sur le volant.
Elle a des capteurs? Ah, ouais. Parce qu'elle sent que ta main part ou...
Elle sent que la tonicité que tu mets à la gestion de ta direction n'est pas habituelle, parce qu'elle crée de la data sur toi, en fait.
C'est
elle crée un algorithme sur tes habitudes de conduite, et donc elle arrive à savoir si t'es dans ta phase d'habitude ou pas. Donc elle va te solliciter en disant, bon, t'es pas comme d'hab, qu'est-ce qui t'arrive? Prends un Doliprane.
D'accord, ok. Ou va dormir.
C'est ça.
Ouais.
Ou arrête-toi, fais une pause.
Ouais. Bien non, mais bon, c'est vrai que ça sert en ce sens. Effectivement, ça peut éviter des drames.
C'est exactement fait pour ça. Après, ça plante les jalons de la future conduite semi-autonome. Donc, dans la sécurité passive ou active, on a deux levier, sécurité passive ou sécurité active. Donc c'est tout ce qui est technologiquement dans le véhicule. Ça a commencé il y a très longtemps. Donc tout ce qui est sécurité passive, ça va être tout ce qui va être airbag. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là, qui existe. Si on peut ne jamais s'en servir, tant mieux. Mais par contre, s'il y en a un réel besoin, ça se déclenche. Après, on a tout ce qui est sécurité active. Donc ça va être tout ce qui va être ABS, tout ce qui va être niveau de la motricité, anti-patinage, tout ce qui s'ensuit.
Ouais.
Où là, c'est vraiment en lien, même sans même que de fois on s'en en aperçoive.
Ouais.
C'est
quasiment intuitif quoi, pour la voiture.
C'est technologiquement installé, c'est maintenant obligatoire et c'est là. On n'y prend même pas cas, on ne fait même pas attention, mais c'est là. Là où ça devient un petit peu plus permanent, c'est que maintenant, alors, ces technologies dont je te parle, active ou passive, c'était surtout des phases mécaniques, électroniques. Maintenant, on est très, très sur les infos divertissement, on est très technologique,
voilà, ouais.
Pour le terme exact, technologique. Donc, quand on entend pour le remplacement de votre pare-brise, le recalibrage de la caméra, le recalibrage de ci, le recalibrage de ça, en effet, alors tout ça fait partie de cette fameuse technologie embarquée, où aujourd'hui, on a des petites caméras dans le pare-brise, qui vont nous aider à faire en sorte de visualiser ce qui arrive en face de nous, c'est-à-dire que la caméra, elle va voir la voiture.
Mais elle est où dans le pare-brise, la caméra? Moi, je ne l'ai pas vue.
Sous ton rétroviseur.
Okay,
en règle générale, 90%, ton rétroviseur central.
Ouais.
Alors, sur ma vieille coccinelle de 1973, il est tout petit, tout minimaliste.
Ouais.
Là, maintenant, je ne sais pas si tu as remarqué, mais au niveau de ton rétroviseur, tu as quand même un cache en plastique un peu volumineux.
Ouais.
Avec ça prend une belle auréole.
Ouais.
Ou dedans, tu as un capteur de pluie, tu as un capteur de luminosité,
en fait.
Tu as une petite caméra. Des fois, tu as même deux caméras selon la technologie du véhicule. Et en fait, elle va servir à, un peu comme les sonars à l'armée, elle va servir à vérifier ton environnement et à filmer. Tu as certains véhicules, même, ils arrivent à te, à te déterminer et à t'aiguiller sur le passage au feu vert.
Ah ouais,
ouais.
Non mais, ça, mais en fait, à un moment donné, tu te dis, là, on est sur une période de transition et on c'est va nous apprendre... Ça. Est-ce qu'on va repasser... On va passer le permis dans les années qui vont venir, en fin de compte.
Alors moi, on ne me demande pas de repasser le permis.
Moi, je pense que je ne l'aurai pas. Hein. Le code et le permis, je pense que... Enfin, le permis, oui, mais le code... Enfin, c'est...
Ouais. Non, te pars pas dans des projets comme ça.
Non, non, mais non, mais non, mais non, mais la vraie question, c'est de te dire, bah, si on va vers des voitures qui, bah, voilà, deviennent quasi autonomes en fait.
Ouais.
Et comme on sait que tout va très vite maintenant.
Ben oui.
Est-ce alors le 100, en aura besoin.
Le 100% autonome, c'est pas prévu de suite.
Ouais.
Il y a déjà des tests qui se font aux États-Unis où c'est des taxis.
Ouais.
Des taxis 100% autonomes.
D'accord.
Tu réserves ton taxi.
Ouais.
Tant que taxi arrive,
ah, bon,
de temps en temps il y a des bugs, il y a des taxis qui tournent en rond sur des parkings, c'est arrivé.
Ouais.
Mais bon, c'est normal qu'il y ait des petites mises à jour à faire. Tant qu'il n'y a pas de péril humain, je veux dire, ça reste que de la technologie et que du sinistre matériel. Bon, en l'occurrence, il y en a très peu. Oui, en effet, dans certains pays comme les États-Unis qui ont envie d'être avant-gardistes là-dessus, c'est déjà... en marche, on le commande déjà. En France et en Europe, on est sur des semi-autonomes, c'est-à-dire que voilà, cette fameuse technologie embarquée va nous aiguiller sur les phases, en fait, c'est des veilles constantes, sur une phase d'endormissement, parce qu'on veut éviter l'accident. Tout ça est mis en place pour éviter l'accident.
Ouais.
Évitons l'accident, évitons l'accident. Donc, éviter l'accident, ça va être une phase de vigilance où la voiture va biper s'il y a une trop grosse décélération devant nous, et qu'on n'a fait aucune action.
Ouais.
Mais tout ça se fait dans une seconde et demie. C'est,
ouais,
c'est vraiment ultra réactif. Donc je pense que tout un chacun a déjà eu ce message d'erreur où la voiture a tendance à klaxonner, freiner.
Ouais, ouais.
D'autres où ça va être sur les phases de vigilance, donc si on tient mal son volant ou si on a des phases d'endormissement ou le véhicule pareil. Et le maintien dans la voie va servir à faire en sorte que le véhicule, si on lâche le volant, il va
ça,
pas.
Ça, je le connais bien.
On peut le désactiver, mais le but, il est temps, sur une phase de manque de vigilance, parce que l'erreur est humaine, que le véhicule n'aille pas sur la voie d'en face.
Ouais, ouais, bien sûr.
Il reste là. Bon, après, ça va se biper à un moment donné. Donc, on a les régulateurs de vitesse adaptatifs, donc c'est-à-dire qu'on se met une vitesse à ne pas dépasser, mais pour autant, s'il y a une voiture en face de nous, dans la même voie, notre véhicule va ralentir pour éviter d'aller au contact de ce véhicule en face de nous, le maintien dans la voie. On a des phases où, sur certaines marques de véhicules, on programme son trajet, donc Villeneuve-Agen.
Ouais.
Le véhicule, quasiment, il part tout seul.
D'accord.
C'est-à-dire, on est là et il n'y a que des phases, les phases de freinage.
Je ne savais même pas que ça existait, ça. Moi,
si.
Ah ouais.
Si. Ils appellent ça du semi-autonome. Il y a plusieurs grades, c'est du semi-autonome. Ouais. Mais clairement, c'est déjà dans certains véhicules.
D'accord.
D'ores et déjà.
Alors, ces technologies embarquées, ça demande quand même une adaptation aussi. Pour vous, dans ton corps de métier, c'est un apprentissage permanent. Quand ça déconne, est-ce que on est toujours paré à pouvoir réparer?
Oui, il y a des phases de calibrage. Alors, en règle générale, surtout nous à la carrosserie, donc je vais mettre l'accent sur la carrosserie, parce que c'est surtout sur les phases d'accrochage. Vu que les cibles, ce sont des sonars qui sont souvent dans les pare-chocs ou dans les pare-brises, ben nous, quand on va déposer ou reposer un pare-choc, on est tenu de le recalibrer. C'est une obligation. Et on est tenu de donner un justificatif de recalibration. Quand on remplace un pare-brise, idem. On est tenu, si le véhicule est équipé, bien évidemment, de recalibrer. Donc aujourd'hui, sur nos phases de réparabilité, ben oui, on est obligé technologiquement d'aller un poil devant. Mais il va prendre, après, en termes de logistique, ce n'est pas le même travail. Parce que ce qui pourrait prendre 2 heures de travail, admettons, de déposer ou reposer un pare-brise, bon, ben, faut rajouter à ça l'immobilisation par rapport au calibrage. Voilà. Mais technologiquement parlant, oui, on est obligé de se mettre à la page. Et ce n'est que le début.
Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui nous attend, en fin de compte? Parce que sur les voitures autonomes, enfin, j'ai quand même. Parce que tu me dis, ça va pas arriver tout de suite et tout, mais ça va vite en fin de compte.
Ben, ça va vite, ça fonctionne déjà. Dans d'autres pays, ils sont encore sur les phases d'essais, tests, donc c'est pas validé de 100%. Quand je dis que ça va. Oui, t'as raison, ça va vite. On n'a pas la boule de cristal, je l'ai pas. Et surtout, c'est que c'est des lois qui sont signées. L'Europe et la France ne sont pas mises en avant pour ça. Enfin, c'est pas des territoires choisis. Voilà. Après, la technologie, il faut qu'elle serve l'utilisateur, mais il ne faut pas qu'elle desserve l'économie. J'entends par là. Ça, c'est mon point de vue, c'est que moi. Mais il est vrai que on a tout un chacun des taxis qui ont besoin de gagner leur vie. Il y a le contact humain, il y a la personne derrière.
Mais c'est ça, en fait, qui m'interroge. Parce qu'effectivement, là, on est quand même... tu nous as présenté des technologies embarquées qui visent à mettre plus de sécurité dans la conduite, à mettre aussi plus de confort. Il ne faut pas se mentir. Maintenant, tu me dirais d'aller conduire une 208 de je sais pas quelle année, ça, j'aurais peut-être un peu de mal, tu vois. Mais effectivement, si on part sur des conduites autonomes, tu te demandes ce que vont faire les taxis, ce que vont faire les auto-écoles du secteur. C'est ces questions-là que... Et puis aussi, en tant qu'être humain, d'être un petit peu aussi à la manœuvre de ce qu'on fait.
Voilà, le plaisir de conduire. Ouais. En fait, et à chaque fois que moi, quand on me demande quel véhicule, pourquoi, le sujet et le levier qu'on actionne, c'est le plaisir de conduire. C'est quand on rentre dans un véhicule, il faut qu'on s'y sente bien. Je ne suis pas encore prêt, mais encore une fois, ce n'est pas moi qui décide, mais je ne suis pas encore prêt à pouvoir me dire que j'achète un véhicule simplement pour aller d'un point B sans avoir aucune émotion quand je monte dedans.
Et ouais, c'est ça. Ah, ça te fait de l'émotion, toi, de conduire ?
Non, mais
Mais alors, attendez, parce que la semaine dernière, on avait quand même Alex, contrôle technique de... C'est du passage ?
Du passage.
Hein, qui nous parlait aussi, c'était quasiment une poésie, la moto. Et toi, tu me dis l'émotion dans la conduite. Mais moi, ça me choque, en fait. Ça me fait sourire, mais je sais pas. Moi, j'ai de l'émotion, quand je vois un tableau, quand j'écoute de la musique, toi, quand tu conduis.
Alors, j'ai aussi de l'émotion quand je vois un tableau, quand je conduis, quand je mange un mets succulent. Ouais. Mais l'automobile, c'est une forme de culture.
T'as de la chance quand même. Hein.
Je me rassasie de tout, tu sais. Mais il y a une culture automobile, voilà. Et la culture automobile peut être animée simplement par l'objet qu'on trouve beau et animée par d'autres personnes, admettons qu'ils vont pratiquer du sport automobile ou quoi que ce soit, et qu'ils vont aller chercher soit la performance en respectant les limitations de vitesse, ou soit une typologie de véhicule. Bref, alors, il est vrai que moi, pour mon petit spectre, il est clair qu'il y a certains véhicules, j'ai plus à plaisir de monter dedans. Alors, c'est pas spécialement des véhicules de plus en plus récents. Monter dans une vieille pagode ou quoi que ce soit, c'est un objet que je trouve beau. Mais il est clair qu'on vient chatouiller et heurter ce ressenti agréable quand on monte dans tel ou tel véhicule. Pas tout le monde, je te l'accorde. Mais il y a de ça. Et du fait qu'aujourd'hui, on cherche à très uniformiser l'expérience véhicule, on va enlever un peu de ça. Mais encore une fois, tous les biais mis en place pour cette fameuse technologie, c'est fait encore une fois pour sécurité.
Et là-dessus, on ne peut qu'être reconnaissant de l'évolution technologique.
Clairement. Si c'est fait pour sauver des vies, allons-y. De toute façon, les véhicules sont intégrés de ça, donc allons-y. La seule chose qu'on puisse y faire, c'est que, et là je parlerai pour tous les utilisateurs, si le véhicule a le maintien dans la voie, s'il y a le maintien de vigilance, c'est pas fait pour attraper son téléphone.
je sais, mais t'as tellement raison, Non, mais c'est vrai, faites attention au téléphone en voiture. Moi, j'essaie de le laisser tranquille aussi.
Ouais, mais en fait, il y a le contre-produit de ça. Et c'est exactement le fléau que l'on a du téléphone. Ouais. Alors, j'en parle, parce que malheureusement, j'y ai laissé 3 points il n'y a pas très longtemps. Donc, la cicatrice est encore, est encore sensible. Mais je veux dire par là, c'est que... si on a des véhicules qui nous permettent aujourd'hui plus de liberté d'action et moins de concentration, il serait dommage que la concentration soit mise sur les mauvais outils. Et donc, 2 points de vigilance supplémentaires, et je le prends pour ma part aussi, pour y avoir laissé 3 points, c'est le téléphone, c'est bien de le laisser là où il est.
Voilà. Donc, ça fait du mal au point, et puis ça peut effectivement créer des drames, et t'as raison d'en finir là-dessus. Merci beaucoup Christophe.
Avec plaisir.
On se retrouve les lundis et les jeudis matin sur le 93.6 et bien entendu en podcast sur bullfm.net. Nous on se retrouve dans un instant, juste après le top de la musique. On est ensemble jusqu'à 10h. Belle matinée à tous.